nous allons considérer les versets, chapitre 17, 12, 13 et 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume et qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bon, alors là, il n'y a pas de difficulté. L'empire de l'Antichrist apparaît comme une fédération placée sous l'autorité de ce grand maître. Les 10 cornes étant donc, selon notre texte, des rois confédérés disposant d'une grande puissance, mais pour peu de temps. Ils fournissent à l'Antichrist qui se considère comme le roi des rois, un surcroît de moyens pour lutter de façon ouverte contre le Christ, contre Jérusalem, contre ce reste d'Israël qui est converti. Dieu se servira également d'eux pour exécuter ses jugements contre la prostituée. Nous dira le verset 16 que nous avons lu au début, et ils la détruiront corps et bien. La prostituée sera détruite à tous égards. Le verset 14 proclame la victoire du Christ sur la coalition des 10 rois et de l'Antichrist, et les élus de Dieu auront participé à cette victoire en supportant l'opprobre de Christ sur la terre, en ne cherchant pas à tirer eux-mêmes parti de leur vie, c'est-à-dire en perdant leur vie, comme a dit le Seigneur Jésus, et en résistant au diable. Donc c'est maintenant qu'il faut vaincre par avance, c'est maintenant qu'il faut apporter notre contribution à la victoire, non pas du Christ et les remporter, mais la victoire finale contre l'Antichrist, être parmi les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec Christ. C'est maintenant. Ce n'est pas au tout dernier moment que ça va se produire, c'est maintenant. Le verset 18, nous n'avons plus qu'à voir le verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Alors là, ça confirme tout ce que nous avons dit des 7 montagnes, de la ville aux 7 montagnes. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça veut dire au moment où tu vis, où tu es, toi, Jean, n'est-ce pas? Quelle est la ville qui a la royauté? C'est Rome, je vous l'ai dit, elle était la maîtresse de l'univers. Et cette expression, je la prends du dictionnaire, n'est pas moi qui l'ai imaginée. Je voudrais quand même vous donner quelques aperçus complémentaires sur Babylone la Grande. Au verset 4 de notre chapitre 17, la grande prostituée a été vue vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. À cette lecture, évidemment, la pensée vient, pas si elle vous est venue, mais moi, elle m'est venue il y a longtemps, la pensée vient sur les vêtements sacerdotaux de tradition dans l'Église romaine, vêtus de pourpre, d'or, d'écarlate. Je ne sais pas si vous avez assisté à de grands offices, c'est l'or, l'écarlate, n'est-ce pas, ça c'est tous les dignitaires, là, même les simples prêtres, ils ont des grandes chapes toutes dorées. Hein. Ah oui, c'est formidable. Il y a de l'or, il y a de la pourpre, il y a tout ce dont il nous est parlé ici. Mais l'œil du catholique, accepte cela. Il accepte les dentelles. Moi, maintenant, ça me scandalise, n'est-ce pas, de voir qu'un homme a des manches en dentelle, des bas de robe en dentelle, n'est-ce pas. Bon, enfin, le catholique, il est fait à ça, n'est-ce pas. Il accepte les dentelles, l'or et la pourpre de ses somptueux habits par l'effet de l'habitude. Il n'y voit rien de choquant. Par habitude. Vous savez, on s'habitue, on s'accoutume à tout. On a été élevé tout petit, enfin, par exemple, on a été élevé dans le catholicisme, on a toujours vu ça. Surtout il y a peut-être moins de pompes maintenant, il y en a encore, mais enfin, moins peut-être qu'autrefois, mais enfin, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai vu ça, n'est-ce pas? Au début, même quand j'étais gosse, j'aimais assez voir ça. Moi, ce qui m'intéressait dans l'église, c'était de voir ça, toutes les lumières, pas, et tous ces grands messieurs, n'est-ce pas, magnifiquement vêtus. C'était un spectacle. Mais pour arriver à ça, l'église catholique, c'est tout de même l'église primitive qui a changé à travers les âges, à travers les siècles, hein. Pour arriver à cela à travers les siècles, combien n'a-t-il pas fallu s'éloigner de la simplicité recommandée par les Écritures? Si je relis là dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Mais c'est bien ce qui est arrivé au travers des âges, n'est-ce pas? On sait, les pensées des hommes se sont corrompues et se sont détournées de la simplicité à l'égard de Christ. Jamais, n'est-ce pas, on ne nous a représenté le Christ avec des manches en dentelle, ou de l'or, ou de la pourpre. Et il a fallu ainsi contredire de façon flagrante l'esprit de l'Évangile. Cette attristante somptuosité atteste la pénétration du besoin de grandeur et d'honneur qui actionne le monde. C'est le monde qui a fait cela dans l'Église. On a laissé pénétrer le monde avec son désir de grandeur, d'apparence, d'honneur. Et c'est comme ça que l'Église primitive, au travers des siècles, s'est corrompue pour devenir l'Église catholique. Alors, on a laissé pénétrer le monde dans le domaine du sacré et du divin, deux domaines, le monde et le divin, qui seront toujours en totale opposition. Et ça n'a pas changé de notre temps, loin de là. Le monde nous suggère peut-être d'autres choses qu'avant. Il ne nous demande pas tellement, il nous demande pas de porter des dentelles, n'est-ce pas? Mais il a un tas de choses à nous suggérer. Et maintenant, il se plaît à nous suggérer la représentation, le théâtre. Sur la représentation, je pourrais vous dire certaines choses. Tu ne feras aucune représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans le ciel, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont en dessous de la terre. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Et nous savons par Jésus-Christ qu'il faut entendre les commandements dans un esprit large. Par exemple, celui qui dit une injure à son frère, ben, il est meurtrier de son frère. Il transgresse le commandement qui dit « tu ne tueras pas ». Vous voyez ? Simplement ça, vous voyez, celui qui regarde une femme et qui la convoite, hein, a commis adultère avec elle, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Voyez-vous comment est le commandement? Si bien que maintenant, n'est-ce pas, tu ne feras aucune représentation quelconque Eh bien, représentation quelle qu'elle soit, et notamment représentation théâtrale. Tu n'en feras aucune. Et quand les scènes qu'on imagine, dont on écrit les scénarios, parce qu'on écrit les scénarios avec des éléments de Bible, eh bien, dans les scènes que l'on imagine, on représente des choses d'en haut, on représente très bien le Christ. J'ai vu, par exemple, une chorégraphie par Jeunesse en Mission, exécutée par Jeunesse en Mission, sur une place de Genève. Hein? Bon, eh bien, il y avait Dieu le Père qui était représenté, il y avait Dieu le Fils, il y avait le diable, les choses qui sont en dessous de la terre, c'est ça, le diable et les démons. Il était là, le diable, tout habillé tout en noir. Hein? Et il y a des personnages bibliques, sont les choses qui sont au niveau de terre, et c'est une transgression flagrante du commandement, tu ne feras aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont en dessous de la terre. On transgresse ce commandement, on transgresse l'esprit de ce commandement. C'est la même chose. Si tu regardes une femme, tu as commis adultère. Par conséquent, n'est-ce pas, ça procède d'un esprit de contestation et d'infidélité que de dire aujourd'hui ce second commandement, tu ne feras aucune représentation quelconque, se borne à nous prescrire de ne pas faire de statut, etc. C'est pas loyal. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, nous enseigne. Alors, tout de même, veut-on, oui ou non, vivre l'Évangile? Veut-on, oui ou non, être loyaux à l'égard de Dieu et de sa parole? Toute la question est là, n'est-ce pas? Si on se donne des prétextes, évidemment, n'est-ce pas, alors on pourra contourner les commandements. Mais moi, je dis que le second commandement, tu ne feras aucune représentation, est transgressé dès que nous touchons au théâtre. Voilà. Et si ça peut ne pas plaire à certains, n'est-ce pas, mais c'est pourtant la vérité. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, par le passé, que le monde est entré avec son désir. Il avait surtout à ce moment-là un désir de grandeur et d'honneur, n'est-ce pas, avec des dignités qui se manifestaient extérieurement. Ça, aujourd'hui, ça a passé, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, c'est rentré dans l'Église. Et l'Église a accepté ça. Hein. Eh bien maintenant, le monde veut nous suggérer autre chose, l'idée de théâtre, de représentation, il a toutes sortes d'accessoires, d'ailleurs il a un magasin d'accessoires extraordinaire, ça, sur le magazine que nous avions l'autre jour, enfin, on voit des batteries de projecteurs. Vous rendez compte, l'Église d'aujourd'hui a besoin de projecteurs. Et alors le journaliste se gausse, évidemment, et il nous dit, ah voyez-vous, n'est-ce pas, cette église de Pentecôte, parce que malheureusement c'est une église de Pentecôte. Alors cette église de Pentecôte, elle parle de la lumière qui lui vient d'en haut, la lumière du Saint-Esprit, mais elle a des projecteurs, elle remplace cette lumière par des projecteurs. Voilà ce que nous dit le journaliste. Il a l'occasion de bien s'amuser. Alors, nous sommes maintenant parvenus à la fin des temps. Le Seigneur attend des fidèles, des élus, des adorateurs, en esprit, en vérité, et rien d'autre. Il veut que nous soyons ceux qui pratiquent ses œuvres. Ceux qui auront pratiqué les œuvres de Christ, les siennes, pas d'autres. Alors, si l'on permet à deux domaines de s'interpénétrer, le monde et le divin, alors on accepte la confusion entre la vue et la foi, on accepte la confusion entre les choses profanes et les choses saintes. Rien ne convient à l'évangile qui soit magnificence visuelle, qui soit décoration, qui soit mise en honneur de l'homme, qui soit autorité de conception humaine et charnelle. Rien, donc, ne convient à l'évangile, en un mot, qui porte la marque de Babylone. C'est la marque de Babylone, ça. Et ça ne peut pas convenir à l'Église fidèle de Jésus-Christ. L'Église du chapitre 21, dont je vous ai déjà parlé, que nous allons revoir, n'est-ce pas, elle ne porte rien. Qu'est-ce qu'elle porte? Le fin lin. Ils sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes, les œuvres voulues par Dieu, les œuvres approuvées par Dieu, les œuvres faites sous l'empire de la bourre. Babylone, c'est l'endroit où sur la terre, les confusions entre le profane et le sacré, entre ce qui est saint et ce qui est pervers, c'est là où ces confusions ont fleuri en premier et ont été élevées au plus haut degré. C'est pourquoi, dans l'évocation des choses de la fin, ce terme de Babylone la Grande a été inspiré à Jean. Dieu est l'esprit de Babylone, qui est à son égard une offense et qui est un enfoncement profond dans le péché caractéristique de la chute de l'homme. Si je fais quelque chose selon l'esprit de Babylone, je m'enfonce, je retourne au péché de la chute. Lorsque l'Église requiert le secours du monde, de ses voies, de ses moyens, eh bien, c'est qu'elle est emportée par l'esprit de Babylone. Peut-on se représenter l'épouse de Christ, qui est une vierge pure, sollicitant l'assistance du monde pour assurer sa croissance, le développement de ses connaissances, contrairement aux avis formels de l'Écriture, qui, par exemple, et celui-ci, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, ce qui veut dire nous ne voulons pas recevoir l'esprit du monde. Il n'est pas question que nous recevions l'esprit du monde. Cela se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Voyez l'épouse du Christ, vierge pure, grandissant et se préparant aux noces de l'agneau grâce aux bons offices du monde qui, lui, ne compte que sur la matière et sur l'intelligence pratique de l'homme, se glorifiant de son génie. Regardez une telle épouse. Ce n'est plus l'épouse du chapitre 21 que vous verrez. C'est la prostituée du chapitre 17. Mais, dira-t-on, le goût du cérémonial et du ritualisme n'ont-ils pas cédé du terrain et ne tombent-ils pas en discrédit aujourd'hui? Il semble que les offices dans l'Église catholique aient beaucoup plus de simplicité. On peut même dire que les statues, c'est encore un signe, les statues ont disparu de beaucoup d'églises. Eh bien, moi, je dirais ceci, les goûts changent, c'est vrai. Mais l'humanisme qui célèbre l'homme se renforce maintenant et s'étend de plus en plus, si bien que le cérémonial de l'âge précédent n'a laissé aucune place vide, si maintenant il est moins goûté. S'il est moins pratiqué, il n'a pas laissé la place vide, car il est remplacé par d'autres artifices, mieux en rapport avec les tendances actuelles, et principalement, il est remplacé par un rapide envahissement des diverses formes du spectacle. Et le même principe prévaut toujours, qui préfère la vue à l'esprit. Le substantiel des voix, des gestes, des couleurs, des arrangements scéniques, des manipulations du technicien, aux humbles concentrations dans la prière. En cette fin des temps, où découvrir l'invitation de Dieu à ses fidèles? Comprenons ce que le Seigneur a entendu dire en Luc 18, versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous abandonnons maintenant ce qui concerne le chapitre 17, et nous arrivons au chapitre 18. Chapitre 18, il est assez important, il y a 24 versets, il faut le lire, je le lis. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. » Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. » Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elles, se sont accumulées jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. » Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville, et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Voilà la chute de Babylone la Grande. Les jugements de Dieu ne peuvent être, nous l'avons dit, que suspendus pour ménager à la terre tout le temps nécessaire à la repentance. Mais ils ne peuvent jamais être annulés. Celui de la prostituée précède le jugement de l'Antichrist. Les 10 rois confédérés seront les exécuteurs du jugement de la prostituée. Mais quelle accumulation d'horribles caractères en la Babylone la Grande qui se confond avec la grande prostituée. Celle-ci se proclamait indestructible, éternelle même. Elle était assise en reine, elle avait pour elle l'éternité. Loin de Dieu, comme l'humanité peut tomber bien bas. Et le savoir des hommes, les connaissances des hommes, les spéculations de la haute intelligence sont incapables d'empêcher cette chute. Entendons l'appel de Dieu adressé à tous les croyants, à toutes les générations, à ceux qui ont une vue lucide, qui sont attachés à la parole de leur Seigneur et qui fuient toutes les formes du péché. Ils entendent marcher à la lumière du Christ. Une voix d'en haut leur dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » C'était déjà un appel que le prophète Ésaïe avait eu à faire retentir. La chute de Babylone, la Grande, vient à son heure irrévocablement. Et il est demandé aux saints, aux apôtres et aux prophètes de s'en réjouir. Alors aujourd'hui, avec l'esprit qui règne dans le monde et qui a aussi ses prolongations malheureusement dans l'Église, eh bien, alors on dira, voyez, c'est pas charitable, ça ne faut pas se réjouir du malheur. Ici, c'est la parole de Dieu sous le couvert de la sainteté de Dieu qui nous dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Parce que Dieu a supporté longtemps cette grande et terrible offense. Dieu supporte maintenant tout ce qui est apostat, pervers, tout ce qui détruit, tend à détruire l'œuvre de l'Évangile, il supporte ces choses. Mais il est offensé. Mais il est gravement offensé. Et le temps, par conséquent, des jugements, c'est le temps de la manifestation de sa sainteté. Les disciples fidèles et accomplis n'ont pas à user de mansuétude à l'égard de tout système et de tous hommes qui lutte contre Dieu, contre la vérité et contre la justice de Dieu. La colère de Dieu est sur eux. Il n'y a pas à faire usage de mansuétude. Ce n'est pas que nous ayons dans le cœur un acharnement, mais nous disons calmement, mais nous disons éclairé par la parole de Dieu, c'est une chose excellente, réjouissons-nous que le moment va arriver où cette monstruosité de la Babylone sera détruite. Jean a la vision des lamentations des rois et des marchands de la terre. Vous voyez, n'est-ce pas, que la corruption, l'apostasie, tout ça, ça marche très bien avec le commerce. Hein, ça va très bien. Les marchands de la terre, eux, ils se lamentent, car tous les intérêts égoïstes et vicieux du monde sont en émoi quand la Babylone sombre, quand elle est perdue, touchée. Tous ces intérêts égoïstes perdent la structure, la meilleure, de l'édifice économique dans lequel résidaient leurs avantages et leurs gains. Nous avons vu que c'était l'embrasement d'un immense incendie qui anéantit la grande ville, Babylone, Rome. Un immense incendie, la ville puissante, et faisant corps avec elle la super église œcuménique. Tout sera détruit ensemble. Tout ce qui est plus ou moins matériel, plus ou moins psychique, plus ou moins moral, plus ou moins peu importe, n'est-ce pas, pseudo-surnaturel, du pseudo-surnaturel, tout ensemble sera détruit. Voilà, nous n'avons pas à dire plus de choses sur le chapitre 18. Nous pensons que lui, il est assez clair, il est clair et il s'explique bien lui-même.